A du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, à quoi pensez-vous quand on vous parle d'agriculture familiale? À des paysans qui produisent leur nourriture à la petite semaine en vendant le peu de surplus qu'il leur reste sur le marché local? Eh bien, ce n'est pas du tout ça. Les agriculteurs que nous avons rencontrés dans le sud du Cameroun sont des femmes et des hommes d'affaires qui gèrent leurs exploitations comme des petites entreprises.
Auparavant, je semais le manioc avec l'arachide, avec le maïs, tout dans un champ complet. Maintenant, dès qu'on a eu un conseiller, le conseiller nous a montré de ne pas mettre beaucoup de nourriture dans un même champ. Il faut que si tu fais un champ de plantain, tu ne mets rien que le macabo. Donc, dès qu'on a commencé à faire comme ça, on voit un grand changement qu'auparavant.
Et ce conseiller qui a changé les rendements du groupement de producteurs de Mangom, un village situé à 70 km au nord de Sangmélima, fait partie du programme ACEFA, un programme mis en place en 2008 qui a pour objectif d'améliorer la compétitivité des exploitations familiales agropastorales. Et les résultats sont spectaculaires, comme vous le découvrirez tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission.
C'est pas du vent. Sur RFI.
5 yeux pour une vision panoramique, 2 antennes qui leur servent de nez et de main, 1 bouche bien outillée pour prélever le nectar et 3 paires de pattes équipées de corbeilles pour recevoir le pollen. Cette merveille technologique s'appelle l'abeille. Depuis jeudi, 70 villes françaises célèbrent les apidaises pour faire connaître ce pollinisateur si précieux mais malheureusement menacé. Avec nous pour en parler, 3 invités, Henri Clément, porte-parole de l'Union nationale de l'apiculture française, Yves Lecomte, directeur de l'unité abeille à l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, et Alain Canet, président de l'Association française d'agroforesterie. Henri Clément, on va débuter avec vous. Vous êtes par téléphone puisque vous avez préféré rester près de vos ruches dans les Cévennes plutôt que de venir dans le studio confiné de RFI à Paris.
Eh oui, j'en suis désolé, mais les ruches demandent actuellement beaucoup de soins.
Bon allez, on vous pardonne. Alors l'Union nationale de l'apiculture française a choisi pour la 5e édition des Apides de mettre en valeur l'apiculture familiale en lien justement avec l'année internationale de l'agriculture familiale, pour montrer justement la diversité des apiculteurs en France.
Exactement, c'est-à-dire qu'on a en France une apiculture qui comprend à la fois des professionnels, dont je fais partie et qui sont en très grand nombre à l'UNAF, des pluriactifs et des petits producteurs, des milliers de petits producteurs qui jouent tous un rôle très important dans le développement de l'apiculture. Les petits producteurs permettent d'avoir un réseau de pollinisateurs qui est essentiel sur notre territoire, que ce soit pour la sauvegarde des plantes sauvages, pour la pollinisation des cultures, même à faible échelle, à une petite échelle. Et ils sont aussi un vecteur de communication auprès des consommateurs, un moyen de faire prendre conscience à nos concitoyens des enjeux essentiels que porte l'abeille.
Parce que l'apiculture, c'est un bon revenu complémentaire. C'est vrai en France, mais c'est vrai partout dans le monde.
L'apiculture ne s'est jamais aussi bien portée qu'en période de crise. Et comme nous sommes en période de crise, effectivement, l'apiculture permet soit d'en vivre, c'est une vraie profession, nous sommes aujourd'hui près de 1700 à 1800 professionnels en France, mais également d'apporter un complément pour de nombreuses familles qui possèdent 50, 100, 150 ruches et qui participent à la production française. D'ailleurs, heureusement qu'ils y sont, parce que il y a 15 ans, on produisait 32 000 tonnes, on en importait 6 000 à 7 000 tonnes, et aujourd'hui on produit hélas moins de 15 000 tonnes et on n'importe plus de 25 000 tonnes.
Alors on va revenir sur les causes de ces chiffres. Au programme des Apides, des films, des ateliers, des expositions, des visites de ruches, parce qu'il est urgent de mobiliser tout le monde pour la sauvegarde des abeilles.
Exactement, la situation est préoccupante en France et dans le monde. Yves Lecomte en parlera assurément, mais l'enquête qui a été faite à l'échelle européenne Epilobi indique que 30% des ruches meurent chaque année. Et les abeilles, bien sûr, c'est le miel, le pollen, la gelée royale, la propolis, des produits fabuleux, authentiques, qui sont bons pour le bien-être et pour notre santé. Mais également la pollinisation. Et la pollinisation, c'est quand même aujourd'hui, selon les scientifiques toujours, 35% de nos ressources alimentaires qui sont en jeu. 65% de notre diversité alimentaire, c'est un chiffre d'affaires qui est estimé à plus de 153 milliards d'euros à l'échelle de la planète et à 3 milliards d'euros que pour la France, et sans prendre en compte la biodiversité sauvage ni la production de graines qui sont quand même très importants.
Merci beaucoup Henri Clément, on vous laisse retourner à vos ruches.
Merci et bonne émission.
Merci beaucoup. Yves Lecomte, vous êtes donc chercheur. Vous venez de publier avec Vincent Albouy « Nos abeilles en péril » aux éditions Quae. Alors, le terme « en péril » n'est pas trop fort, hein?
Non, c'est pas trop fort puisque les enquêtes montrent que partout dans le monde, il y a des mortalités qui sont autour de 30%, des mortalités hivernales auxquelles il faut rajouter des mortalités pendant la saison et qui, pour les États-Unis, font augmenter le chiffre à 50% de leur population d'abeilles qui meurent en un an, ce qui est énorme.
Alors, est-ce qu'on approche d'un seuil critique ?
Je pense pas qu'on approche d'un seuil critique parce qu'heureusement nous avons des apiculteurs, comme vient de le dire Henri Clément, qui gardent, qui s'occupent de leurs abeilles, mais qui investissent beaucoup de temps à reconstituer le cheptel. Et au lieu d'utiliser leur temps à aller faire du miel, de la gelée royale ou d'autres choses avec leurs abeilles, ils passent beaucoup de temps à reconstituer leur cheptel.
Alors si l'on n'est pas sensible à la disparition de la biodiversité, il y a d'autres réalités à mettre en avant, hein. Henri Clément en parlait, par exemple les conséquences que leur disparition peut avoir sur notre économie.
Oui, notamment en termes de pollinisation. Donc, je valide les chiffres qu'a donné Henri Clément tout à l'heure. La pollinisation, ça concerne pratiquement 80% des plantes à fleurs. Il y a 30% de notre diversité, de notre nourriture qui dépend directement des abeilles. Et donc, il y a une importance qui est phénoménale au niveau agronomique, mais aussi au niveau environnemental. Toutes ces plantes qui n'ont pas d'intérêt économique pour nous ont un intérêt au niveau de la biodiversité. Vous supprimez les pollinisateurs, vous allez avoir un certain nombre d'espèces végétales qui vont disparaître.
Alors, les causes de leur disparition sont multiples.
Alors, elles sont peut-être pas multiples, mais elles sont nombreuses. On n'a pas pu identifier une cause, pour l'instant, qui soit majeure. Donc, mais on sait qu'il y a des causes. Alors, les causes, c'est d'abord les pesticides, qui sont de plus en plus nombreux, que les abeilles vont chercher à l'extérieur de la colonie, quand elles vont chercher leur butin, le pollen, le nectar, et voire la propolis. Donc, elles ramènent un certain nombre de molécules pesticides utilisées en agriculture, et donc, il y a des cocktails, ce qu'on appelle les cocktails de pesticides dans les colonies, qui sont forcément très mauvais pour elles. Il y a aussi des parasites, des pathogènes, des virus. Depuis que les abeilles sont très malades, on a identifié depuis 10 ans de 10 virus, on est passé à 25 virus identifiés. Il y a des champignons microscopiques et tout ça interagit, les pesticides, les pathogènes. Il y a aussi l'agriculture, parce que plus ça va, plus l'agriculture prend du terrain sur les abeilles. Et donc, non seulement les abeilles domestiques, mais les abeilles aussi sauvages qui ont besoin de talus pour faire leur nid, etc. Et plus ça va, moins il y a de place pour ces abeilles et ça participe aussi à leur déclin.
Alors vous parliez des insecticides. La Commission européenne a prononcé un moratoire pour l'interdiction de 3 substances néonicotinoïdes. Hein. Ce sont souvent ces insecticides-là que l'on accuse. Ce moratoire, c'est pour 2 ans jusqu'en 2013, mais ça ne couvre pas tous les insecticides responsables.
Non, bien sûr que non, ça couvre pas tous les insecticides responsables. On espère, mais il y a quand même des chances assez limitées qu'on puisse voir une différence avant et après le retrait de ces pesticides-là. Et de toute façon, ce qu'il faut, c'est améliorer les méthodes de test sur la santé des abeilles, de ces molécules, parce que les méthodes sont à l'heure actuelle assez rudimentaires. Et donc, dans les laboratoires et dans les administrations, actuellement, il y a un travail de fait dans ce sens.
Il y a une mobilisation qui s'organise puisqu'il y a une quarantaine de sénateurs et de députés qui ont décidé de se mobiliser là début juin pour déposer une proposition de résolution au Sénat et à l'Assemblée nationale pour l'interdiction totale de ces néonicotinoïdes. Une démarche évidemment à suivre.
Des questions, des témoignages, des idées? Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Never enough, yeah.
Brian Johnson Massacre, dans C'est pas du vent sur RFI, nous parlons de la disparition des abeilles aujourd'hui avec nos invités. Et comme d'habitude dans cette émission, au-delà du constat, nous vous proposons des solutions. L'agroforesterie, c'est-à-dire associer les arbres à l'agriculture, en est une, comme en témoigne Jacques Delozo. Il est agriculteur dans le Gers, dans l'ouest de la France. Il cultive 84 hectares, dont 12 en agroforesterie. Et pour lui, les synergies sont évidentes.
Oui, effectivement, il y a un gros intérêt pour les abeilles et les pollinisateurs. On est présent en ce moment sur une parcelle agroforestière de luzerne, trèfle incarnant et prochainement blé. Dans cette parcelle où il y a en permanence un couvert végétal qui, en cette période fleurie, on rencontre pas mal de pollinisateurs, d'abeilles, de papillons. Il suffit de marcher pour s'en rendre compte, ça s'envole. Et dans notre système cultural, on a aussi des intercultures de sarrasin qui est très mellifère. L'association culturelle en légumineuse, par exemple, sur l'esparcette qui est très mellifère également, qui fleurit en ce moment où les abeilles viennent polliniser, faire des réserves pour passer un hiver tranquille dans la ruche.
Donc ça veut dire que si on mélange agroforesterie, bande enherbée, couvert permanent, on est tout bonus pour les abeilles, les pollinisateurs.
On a tout gagné, on a tout compris surtout. Car sans les pollinisateurs, on aurait du mal à polliniser nos cultures. C'est l'essentiel. Dans un système intensif où il y a beaucoup de variétés comme les tournesols et tout, on a besoin de ces pollinisateurs pour faire de la graine, tout simplement. Ces insectes-là ont besoin de refuge et de se nourrir pendant l'hiver. Comment faire sinon que de mettre des systèmes de plantes qui vont fleurir en arrière-saison pour faire ces réserves-là de pollen, notamment parce qu'elles se nourrissent beaucoup de pollen, de ce miel qui vont leur permettre de passer un hiver pour pouvoir, le printemps suivant, retrouver ces surfaces à polliniser. Donc grâce à ce système agroforestier et technicultural et couvert végétaux, on va non seulement mettre des refuges pour ces abeilles domestiques et ces abeilles sauvages qui vont trouver refuge à travers nos arbres, à travers nos corridors herbacés, de façon à pérenniser ces insectes auxiliaires de nos cultures et de nos céréales. Mais il n'y a pas que ça, c'est tout ce qui est complémentarité végétale-animale qui va se retrouver. En partant de cette culture, de cette agroforesterie, on va même arriver jusqu'au renard, jusqu'à la buse, qui va réguler tout ce qui est prédateur, tout ce qui est en excès dans notre parcelle. Donc les abeilles font partie de ce système, de cette chaîne d'alimentation, de cette chaîne de production. Et tous ces éléments sont indispensables. Il suffit d'en enlever un et on a une chaîne qui est cassée et qui ne fonctionnera plus.
Alain Canet, cette interview, c'est vous qui l'avez réalisée en tant que président de l'Association française d'agroforesterie que vous présidez, parce qu'elle est très explicite.
Ben oui, c'est Jacques Delozo est aussi le président d'Arbres et Paysages 32, la structure départementale que j'anime dans le département du Gers. Et oui, je pensais pas la retrouver aujourd'hui, mais j'en suis ravi. Tout
alors,
est dit.
Rappelez-nous en quelques mots ce qu'est l'agroforesterie.
Ben c'est du bon sens paysan. C'est effectivement d'associer les arbres et les cultures, les arbres et les animaux de façon ancestrale. C'est le bocage, c'est les haies, c'est les arbres têtards beaucoup, sous toutes les latitudes, sous toutes les conditions, à toutes les échelles.
Les arbres têtards, c'est les arbres
qu'on étête, on les coupe. Il y en a beaucoup en Bretagne, il y en a beaucoup dans le Marais Poitevin qui vient d'être classé récemment. L'avantage de l'arbre têtard, c'est qu'on produit du bois sans jamais le couper au pied. Il y a une cavité qui se creuse dans sa tête et là, on va y retrouver des essaims d'abeilles sauvages, par exemple. Ça veut dire que la biodiversité, elle est au cœur de la parcelle et il n'y a plus de fossé qui se creuse entre agriculture, environnement et pollinisateurs. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Les agriculteurs le font, me semble-t-il, assez bien.
Alors, on parle souvent de l'intérêt de cette méthode de culture pour les pays en développement, mais en Europe aussi, il est urgent de la développer.
De mon point de vue, c'est une nécessité, donc je l'assume. On a besoin d'arbres pour tenir nos écosystèmes. Nos champs sont trop grands, ils sont trop soumis aux conditions climatiques qu'on nous annonce de plus en plus violentes, du très chaud, du très froid, beaucoup de pluie, beaucoup de vent. Les écosystèmes sous nos latitudes ont besoin d'arbres aussi. Et l'agroforesterie, c'est de mixer tout ça, de conjuguer, de pas opposer les plantes, mais de trouver les synergies et les symbioses. Et les prés vergers normands, c'est de l'agroforesterie. Les noyerets du Dauphiné, où on cultive du maïs entre les noyers, c'est aussi de l'agroforesterie. Il y en a plein, et j'ai pas peur de dire que si on veut arrêter de piller le reste du monde et les tropiques en particulier, on a intérêt à faire de l'agroforesterie sous nos latitudes.
Alors l'une des conséquences directes aussi, c'est qu'en jouant sur la complémentarité des plantes dans les écosystèmes, l'agriculteur utilise moins d'insecticides.
Oui. C'est bien ça, et c'est bien résumé, et c'est ce qui va nous intéresser. Aujourd'hui, il faut qu'on rentre dans la réparation, parce qu'il y a plein de problèmes, on l'a dit, mais il faut aussi qu'on soit dans la prévention. Quel type d'agriculture voulons-nous ? Comment on fait en sorte que l'apiculture et l'agriculture se parlent correctement, Henri Clément l'a dit, on importe du miel, enfin c'est consternant, il y a une économie réelle à remettre en place là-dessus, du bon sens, et les curseurs sont pas loin d'être ajustés, on commence à y voir plus clair, on peut travailler moins les sols, On peut laisser pousser des arbres. Notre laboratoire de l'INRA de Montpellier, en l'occurrence, nous montre très bien que sous les arbres, les cultures poussent bien, les animaux sont en pleine forme. Et on a une quantité, une diversité de plantes, des plantes qui fleurissent. Certaines ne sont pas cataloguées comme mellifères, mais elles nourrissent l'abeille. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est de nourrir l'abeille toute l'année. On dit du saule au lierre, c'est-à-dire que le saule fleurit très tôt avec le noisetier. Et jusqu'au lierre, en fin d'été, on a une réserve importante de nourriture de qualité échelonnée dans le temps. Et moi, je pense que ça, c'est une cause importante. Je ne vais pas dire majeure, parce qu'il y en a beaucoup. Des sols vivants, comme vous l'avez dit. Si je fais une agriculture dans des sols vivants protégés, mes plantes ne seront pas malades. Donc, je n'aurai pas besoin de traiter mes plantes. Donc tout ça est vertueux, et là on a, pour une fois, me semble-t-il, on peut en sortir vers le haut. C'est-à-dire que l'agriculteur va produire plus et mieux, et l'apiculteur et l'environnement en général, et j'oublie pas de citer les masses d'eau qui en pâtissent beaucoup de tous ces produits, vont s'en sortir par le haut. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui.
Yves Lecomte, l'agroforesterie, c'est aussi restaurer des paysages, parce que c'est vrai que quand on se promène en France, les paysages agricoles sont assez monotones, avec des champs de monoculture à perte de vue, sans arbres ni haies.
Oui, donc avec ces champs-là, il n'y a plus de place pour les abeilles, alors qu'avec l'agroforesterie, justement, les abeilles reviennent. On a un gros problème, nous, les apiculteurs, c'est qu'on a plusieurs semaines, voire plusieurs mois, où il n'y a plus rien à manger pour les abeilles, parce qu'elles n'ont plus rien autour. Donc l'agroforesterie, c'est la solution à ces problèmes de nutrition des abeilles. On travaille ensemble, et j'espère qu'on va travailler encore plus pour notamment mettre des essences qui sont importantes, notamment à l'automne, pour fabriquer ces abeilles d'hiver qui vont passer tout l'hiver dans le froid, et puis au printemps redynamiser le nid. Ces abeilles-là, il faut qu'elles soient bien physiologiquement et grâce à une bonne nourriture apportée par en particulier par l'agroforesterie.
Alors la question, c'est toujours un peu la même, c'est comment est-ce que nous en sommes arrivés là? On ne s'est pas rendu compte de tout ce qu'on coupait, de tout ce qu'on faisait disparaître et des conséquences que cela avait. Vous qui êtes chercheur et qui scrutez cette réalité de près.
Moi, quand j'étais petit, j'ai grandi dans une ferme et on a payé mon père pour arracher les haies. Heureusement, on n'a arraché qu'une haie parce que vraiment, elle nous embêtait. Et 30 ans ou 40 ans après, on est revenu frapper à la porte alors qu'on ne demandait rien en disant, mais si vous voulez, on vous plante une haie, là. Et mon père, effectivement, a planté une haie. Il y a plein d'abeilles dedans, etc. Et ça, c'est formidable. Et il faut qu'on réagisse suffisamment vite pour que ça devienne pas trop catastrophique, quoi.
Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Les Apidaises, c'est jusqu'à ce soir dans toute la France. Et je rappelle le titre de votre livre, Yves Lecomte, coécrit avec Vincent Albouy, Nos abeilles en péril. C'est publié aux éditions Quai. Restez sur RFI. De toute façon, vous ne serez pas mieux ailleurs. Juste après le flash d'info, nous vous emmènerons dans le sud du Cameroun à la rencontre de paysans qui vous prouveront qu'avec de bonnes techniques et une bonne organisation, on peut gagner beaucoup d'argent avec l'agriculture familiale. À tout de suite.